Bonjour les frères et sœurs voilà, qui sont ici sur place, ainsi également qui sont sur Zoom. Nous remercions Seigneur pour cette période, deuxième semestre de l'année 2020. Merci Seigneur pour sa protection. Nous pouvons continuer de célébrer le culte ici pour louer son grand nom. Voilà. Avant d'écouter la parole de Dieu, je vous invite à prier encore une fois avec moi. Seigneur, nous voulons rendre grâce encore une fois à toi. Nous te croyons, tu nous aimes encore. Et tu as l'histoire d'amour nous raconter encore. Que Seigneur, tu bénis ce moment. Et notre cœur qui ressemble un peu comme le prophète Samuel, il dit que « Moi voici, ton serviteur, il t'écoute ta parole. » Voilà, nous te prions en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Aimer Dieu d'une manière exclusive, comme Jacques chapitre 1 à 8, quand tel l'homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises. Jacques dit ici aux chrétiens qu'il faut avoir un cœur fidèle à Dieu, car une personne peut avoir un cœur partagé. Si le cas, sa foi sera instable. Cette personne a même basculé, c'est-à-dire qu'elle est tombée. L'exclusivité signifie que notre cœur est disposé. Nous sommes uniquement concentrés sur une seule chose. Par exemple, une ampoule a un rôle unique. Elle ne peut être placée au bon endroit pour briller. Si elle n'est pas placée au bon endroit, elle ne peut pas briller. Si elle pouvait parler et dirait qu'elle n'est pas à sa place. De la même manière, les gens ont la capacité d'être concentrés sur une chose et d'être attentifs parce que Dieu nous a créés dans ce but unique. Le but unique des êtres humains est de se concentrer sur la recherche de Dieu et de sa gloire et d'être rempli de Dieu. Tout comme une ampoule ne peut être utilisée que pour la lumière. Les gens sont déterminés et focalisés sur quelque chose quand ils en connaissent la valeur. Ils sont donc prêts à le garder exclusivement. Dieu est pour les chrétiens le chemin le plus sûr vers l'éternité. Sur la base de cette exclusivité, nous pouvons nous positionner en agissant selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi lorsque les Israélites se trompent dans leur foi, Dieu trouve toujours un moyen de les ramener sur le bon chemin. Malachie, chapitre 2, verset 10. Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique? Pourquoi Dieu dit-il cela? À travers les prophètes, Dieu a dit au peuple élu d'Israël que le Dieu auquel il croit est leur seul Père est le seul Dieu créateur. Il est le vrai Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le seul, le plus important. Donc, Dieu exige d'être considéré comme unique. Il veut que son peuple l'aime de tout son cœur et de toute sa force entièrement, sans douter jusqu'au bout. Il est triste que les Israélites n'aient pas réussi à obéir à plusieurs reprises. Regardons dans le premier chapitre de Malachie, le peuple élu se méfie de Dieu. Les Israélites ne peuvent donc pas suivre Dieu sur le chemin que Dieu veut. Chapitre 2, le peuple, et particulièrement les prêtres, parce qu'ils ne prennent pas à cœur la loi de Dieu, ne peuvent pas recevoir les bénédictions de Dieu. Dans chaque chapitre, Dieu s'adresse au peuple avec des mots marquants. Par exemple, en chapitre 1, verset 2, « Je vous ai aimé, dit le Seigneur. » Chapitre 2, verset 1 à 2, « Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. » Nous venons de lire le chapitre 2, verset 10. Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique? Ces questions introduisent ce qui suit. Malachie, Esdras et Néhémie parlent de l'histoire du peuple et du Juif qui est de retour à Jérusalem. Ces livres encouragent également ceux qui ont été choisis à s'engager, à obéir à la loi de Dieu. Ces livres soulèvent aussi les erreurs du peuple, là où ils n'ont pas obéi dans l'espoir qu'ils reviennent vers Dieu. Cet après-midi, ce passage commence par le verset 10, qui est aussi un verset clé pour tout le passage. Disons l'ensemble, ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique? Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique? Je partage trois points principaux de ce passage avec vous. Premier point, revenez à la vie sainte que Dieu a ordonnée pour l'homme. Gardez votre foi que Dieu a établie pour l'homme et qui se transmet de génération en génération. Dernier point, fondez une famille chrétienne heureuse selon le désir de Dieu. Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique? Si Dieu dit aux chrétiens, avez-vous tous un Père? Êtes-vous tous créés par le même Dieu? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Dieu a ordonné à Moïse de transmettre le premier des 10 commandements pour nous dire qu'il ne doit pas y avoir d'autre Dieu. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Dieu veut avoir une relation avec nous. Aucun autre Dieu ne peut remplacer cette relation intime. Dieu est le Rédempteur qui nous a rachetés et notre meilleur compagnon. Il est objet de la quête de notre vie. Construire une relation avec Dieu nécessite de la constance, de rester focalisé. Rien d'autre signifie que nous devons rejeter certaines choses. Parmi les 10 commandements, Dieu dit plusieurs fois, non, non, c'est non. Ces noms sont les limites tracées par Dieu, des limites qu'il ne faut pas dépasser. Lorsque nous nous concentrons sur les enseignements de Dieu, nous savons où sont les limites, de même dans notre travail. On nous fixe des délais, des limites pour achever un projet que nous planifions notre temps pour le terminer. Aimer implique de faire de notre mieux quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, quand nous aimons le seul et unique Dieu. Dieu n'aime pas que nous ayons un autre amour. Jacques chapitre 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. L'Esprit qui vit en nous désire que nous aimions Dieu, aspire à ce que nous nous tournions vers Dieu au point qu'ils deviennent jalouses si ce n'est pas le cas. Cela nous dit que nous qui sommes corrompus, nous sommes enclins à nous tourner vers le monde, à aimer le monde et à nous lier avec le monde. De sorte que nous entretenons une relation illégitime avec le monde et que nous devenions plutôt prostituées devant Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, Paul dit, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Il est mentionné ici que Dieu a un cœur jaloux. Il veut que nous soyons consacrés à lui. Il ne veut pas que nous ayons d'autres loisirs qui le remplacent. Tout comme un mari l'attend de sa femme, la femme doit avoir l'ardent désir d'aimer exclusivement son mari. Voici comment nous devons vivre une vie sainte. Une vie sainte, c'est vivre une vie comme Dieu. Dans une vie comme Dieu, la première chose est d'aimer Dieu d'une manière absolue. Pourquoi le prophète a-t-il spécifiquement mentionné « Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père, un Dieu ?» Cela fait allusion au fait que les hommes et les femmes ont été créés par Dieu et que tous d'eux reçoivent la vie de Dieu. Ici, la question « Pourquoi agissons-nous perfidement, chacun envers son frère ?» ne se réfère pas seulement aux hommes. C'est le terme utilisé par les Juifs pour désigner tous les compatriotes. Le mot « frère » englobe dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, des femmes ou les sœurs. Donc, d'après le contexte, le sens de ce verset peut être qu'il ne faut pas traiter sa femme d'une manière trompeuse, parce qu'elle appartient au même Père et au même Dieu. Créer, le mot de hébreu, c'est bara, ce qui signifie que la création des Israélites par Dieu est unique parce qu'il a établi une relation d'alliance avec eux. Le Dieu unique a fait des Israélites un peuple unique. Le verbe trahir veut dire faire quelque chose d'une manière dissimulée qui n'est pas cohérente. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Selon le contenu de l'alliance entre Dieu et les ancêtres, il n'est pas précisé que les femmes qui servaient des dieux étrangers ne devaient pas être épousés. Mais Abraham a fait une alliance avec Dieu. Dans cette alliance, la condition est de ne pas servir de dieux étrangers. Il s'agit de se concentrer à suivre l'appel de Dieu. Et le but principal de l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob est de les conduire à servir Dieu de tout leur cœur. Si jamais ils se marient avec les femmes étrangères et comme Dieu a dit que le mari et la femme sont un seul corps, ils ne peuvent donc pas se concentrer sur le service de Dieu. C'est pour cette raison que ni Isaac ni Jacob ne devaient épouser une femme cananéenne qui servait des dieux païens à cette époque, mais une femme de leur propre tribu. C'est pourquoi Malachi a accusé Judas d'avoir épousé une femme qui servait des dieux étrangers, ce qui est une trahison de l'alliance entre Dieu et ses ancêtres. C'est un acte abominable. C'est profaner ce qui est consacré à l'Éternel. Malachi chapitre 2, verset 11. Voici la conséquence, Dieu a dit au verset 12. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Cela signifie pour nous que si nous n'avons pas une vie sainte, même si nous venons à l'Église pour le servir, il refusera notre service. Deuxième point, gardez votre foi que Dieu a établie pour l'homme et qui se transmet de génération en génération. Regardons la suite des versets 14 à 16. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. La femme de sa jeunesse. Car je haïs la réputation de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Ce passage rapporte qu'auprès de le retour des Israélites d'exil, bien qu'il ait un temple qui rencontre encore de nombreuses difficultés au niveau matériel et au niveau spirituel. Et à travers les prophètes, Dieu a déjà soulevé leurs problèmes, à savoir que certaines personnes ont épousé une femme païenne. Certaines ont une liaison et ont une relation anormale entre hommes et femmes en plus de leur propre épouse. Et certaines personnes utilisent le viol pour traiter leur femme. Et en d'autres termes, c'est de la violence conjugale. Les crimes des Israélites ont amené Dieu à les sanctionner et à ne pas écouter leurs prières. Dieu veut bénir notre mariage et nous laisser grandir et devenir meilleurs dans notre relation conjugale. Tout d'abord, nous devons trouver un conjoint qui partage la même foi afin de vivre dans notre vie de couple. Ainsi, nous marchons dans la même direction. Par exemple, pour l'éducation des enfants, ainsi certaines conflits peuvent être évités et il est parfois plus facile d'avoir un même avis. L'Ancien Testament a clairement déclaré que les mariages mixtes avec les païennes ne sont pas autorisés. Sinon, cela entraînera de nombreuses difficultés pour soi-même. Il sera facile de s'éloigner de la foi et de la bénédiction de Dieu. Le Nouveau Testament dit aussi la même chose. Ce n'est pas que Dieu contrôle tout ce qui est trop strict, mais c'est pour le bien-être de notre vie. Le mariage a une grande valeur aux yeux de Dieu et nous est accordé pour notre bien. Mais des êtres humains sont faibles et pécheurs. Et pour diverses raisons, il y a toujours des personnes qui ne peuvent pas maintenir un mariage durable. À l'époque de Jésus, l'approche libérale était très populaire dans la société juive, ce qui conduisait à permettre le divorce. Par exemple, la femme prépare un horrible dîner. Le mari n'est pas satisfait, alors il peut dire à sa femme de partir. Cela a donné aux pharisiens l'occasion de tester Jésus. Mais Jésus a sagement souligné que ce n'est pas en aucun cas là. aucun cas la signification du mariage au moment de la création. De nos jours, nous pouvons voir le mariage de manière si légère, comme les Juifs. Lorsque Dieu a établi le mariage pour la première fois, il a dit que l'homme quitterait ses parents et s'unirait à sa femme, et que les deux deviendraient une seule chair. Une chair ne peut être séparée. Et les pharisiens ont continué à utiliser la loi de Moïse et ont demandé pourquoi Moïse a-t-il permis le divorce. Jésus a expliqué que c'est pour des raisons pratiques. À cause de l'influence du péché, que certaines personnes divorcent, dont en cas de divorce, le mari est tenu de donner à sa femme un certificat de divorce afin de protéger le droit de la femme de se remarier à l'avenir. Puis Jésus dit, si vous vous séparez, vous commettez un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. En d'autres termes, Jésus n'autorise pas à divorcer sauf en cas d'adultère. L'immoralité sexuelle qui est une rupture de l'Alliance, Matthieu, chapitre 19, 8 à 9. Dieu valorise l'Alliance du mariage. Et le divorce cause un grand tort à la famille, aux deux conjoints, aux enfants. Nous appartenons, mari et femme, au Seigneur et nous devons faire preuve de l'amour du Seigneur pour nous soutenir l'un l'autre et nous supportons l'un l'autre afin de surmonter des ruses du diable. Parce que rien n'est possible avec Dieu quand le mari et la femme prient ensemble et communiquent entre eux. Il peut aussi discuter avec le pasteur et demander les membres de l'Église de prier avec eux. Sinon, il est possible également de se tourner vers des conseils professionnels en matière de mariage chrétien. Le divorce ne peut être pris à la légère. Il faut éviter les pièges du diable. L'ordre aux Israélites ne pas épouser des femmes païennes concerne aussi les chrétiens aujourd'hui. Nous devons aussi appliquer cette recommandation de ne pas épouser ceux qui ne croient pas au Seigneur. En effet, le Nouveau Testament indique que les chrétiens, le peuple saint, partagent le même royaume. Prochaine slide, s'il te plaît. C'est dans le Éphésiens de verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Le mot païen désigne les personnes qui n'ont pas cru au Seigneur. 1 Corinthiens 5, versets 1, 12 à 13. Dernier point. Fonder une famille chrétienne heureuse selon le désir de Dieu. Verset 16b. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. La Bible est une bonne boussole pour bâtir une famille chrétienne heureuse. Dieu est un Dieu saint. Par conséquent, il veut que nous ayons une vie sainte et que la sainteté se manifeste dans la vie du mari et d'une femme dirigée par Christ. Les Juifs à cette époque épousaient des femmes idolâtres. Pour se remarier, il fallait d'abord divorcer avec son épouse. L'homme agissait donc de manière trompeuse et trouvait des excuses pour divorcer avec sa femme. Alors que ces hommes épousent des femmes étrangères, ils parlent également de servir et d'offrir ses sacrifices à Dieu. Dieu n'est pas disposé à accepter les offrandes offertes par ces personnes. Ils ne savent pas pourquoi et se demandent pourquoi Dieu ne les accepte pas. Le prophète dit alors que le vrai sens d'un mariage est que l'homme reste avec sa femme, qui est une vie de couple pour toute la vie. Que l'homme ne convoite pas une femme, une jeune femme, préciser une jeune femme pour abandonner sa première femme. La Bible dit que ne convoite pas la jeune femme. Imaginez quand on se mariait très jeune. Nous sommes très beaux et belles tous les deux. Je me suis marié à l'année de 1900. Ah, je ne me souviens plus. Hélène, elle est là. L'année de 82. J'aime bien de regarder souvent le photo le jour que j'ai fait de célébrer ce congé avec Hélène. Je regardais, oh là, que je suis beau avant comme aujourd'hui. Ça souvient la grâce de Dieu. Comment qu'il nous bénit le jour jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous encourage, les mariés, quand ce soit vous retournez chez toi, regardez la photo de mariage. Que c'est beau. Nous voyons cette réalité. En regardant les photos de mariage, on se souvient de l'alliance qu'on a établie avec notre Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi, mais avec le temps, tout change. Le problème vient en fait de notre cœur. Dieu nous interpelle, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Ne trompez pas votre femme, ne lui faites pas violence. Dieu déteste le divorce. Un mariage entre un homme et une femme n'est pas un contrat, mais une alliance. Le divorce et la violence conjugale sont tous deux détestés par Dieu. Le divorce dans la société laïque, en particulier chez les personnalités publiques, ne peut être considéré comme normal. Le mariage ne consiste pas à porter des vêtements. Aller enlever, aller remplacer lorsqu'ils sont vieux ou fatigués. Le point de vue biblique sur le mariage est que c'est entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme. Ça veut dire contre le mariage homosexuel. C'est un mariage monogame, contre la polygamie et le concubinage. C'est un mariage exclusif contre les histoires extra-conjugales. C'est pour la vie contre le divorce. Seule la mort peut mettre fin au mariage. Bien que la durée de vie des êtres humains soit limitée, le désir de l'amour éternel est populaire parmi les gens. Les écrivains chinois disent jusqu'à ce que la mer soit sèche et que la pierre soit pourrie. Autant que dure le ciel et la terre. Il décrit tous la nature éternelle de l'amour. À moins que nous n'aimiez pas vraiment qu'un, vous voudriez que cet amour dure éternellement. En effet, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, le Dieu trinitaire n'a jamais interrompu son amour pour son peuple. L'alliance entre Dieu et l'homme ne changera jamais dans l'ancienne alliance, même si l'alliance est trahie et bafouée par son peuple encore et encore. Dieu continue d'aimer son peuple comme un mari aime sa femme. Dans la nouvelle alliance, le peuple de Dieu est aussi l'épouse de Christ. Même l'Église contemporaine devrait se préparer comme une fiancée attendant jour et nuit que l'époux, le Christ, vient d'épouser. Tous deux entrons ainsi dans l'éternité. Voilà, nous arrivons au terme du message. Revenons au verset 10. Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique? Nous devons retenir trois choses. Revenez à la vie sainte que Dieu a ordonnée pour l'homme. Gardez votre foi que Dieu a établie pour l'homme et qui se transmet de génération en génération. Fondez une famille chrétienne heureuse selon le désir de Dieu. Ce texte nous rappelle que le mariage est une alliance qui est une image pour l'alliance entre Dieu et son peuple. Nos choix par rapport au mariage réveillent si nous marchons dans la sainteté, dans la fidélité à Dieu ou pas. Soyons certains que Dieu est toujours fidèle à son alliance envers nous. Que le Seigneur nous aide à être saints comme il est saint. Prions ensemble. Voilà, Seigneur, que notre prière, c'est que tu n'acceptes pas l'incohérence. Tu veux que nous témoignions de tout notre cœur, parce que tu nous as achetés avec ton sang précieux. Ce que tu veux, ce n'est pas un cœur partagé, mais un cœur complet. Tu dis que celui qui tient la charrue à la main et regarde en arrière n'était pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous t'appartenons. Aide-nous à d'abandonner le contrôle de notre vie, afin de laisser être le premier et le roi. À travers l'étude d'aujourd'hui, aide-nous à nous examiner, à ajuster notre conduite pour ne pas t'éviter de toi. Aide-nous à être affermis que mon cœur te soit fidèle toute ma vie, sans attendre autre chose, sans dépendre d'autre chose, si ce n'est pas de toi. Il n'y a pas d'autre amour sur terre que toi. Que nous t'offrions un service qui soit conforme à ta volonté, affermis pour nous l'œuvre de nos mains, et que toutes ces choses faites pour toi deviennent une offrande parfumée que tu as créée. Nous prions en ton nom de Jésus-Christ. Amen.